Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter l'aïoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Alors bonjour aux auditeurs de Radio Galère, vous êtes bien en 2016 et vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, et c'est la 31e du genre. Avec moi aujourd'hui dans le studio et jusqu'à la fin, Hervé. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Alors notre émission d'aujourd'hui va être entièrement consacrée aux paradis fiscaux, à travers ce qu'on a appelé il y a peu l'affaire des Panama Papers.
Eh bien oui, Christine, non seulement à travers ces fameux Panama Papers, mais aussi, en deuxième partie, on parlera des lanceurs d'alerte dont le procès d'Antoine Deltour montre bien le double discours des politiques qui d'un côté prennent soi-disant leur défense dans les médias et de l'autre votent en catimini le 14 avril dernier une directive sur le secret des affaires.
Alors pour entrer dans le vif du sujet, peux-tu nous dire d'où est parti ce nouveau scandale financier international Panama Papers ?
Eh bien, c'est le consortium international des journalistes d'investigation, ce qu'on appelle l'ICIJ, qui a pu récupérer des fichiers d'un lanceur d'alerte dont l'identité n'a pas été dévoilée. Cette fois-ci, la protection du lanceur d'alerte a bien été privilégiée. Alors, il a d'abord pris contact avec un journal allemand, mais vu l'importance des données, ce dernier a jugé qu'il ne pouvait pas les traiter seul. Il a donc fait appel au consortium qui, à son tour, a mobilisé une centaine de rédactions au niveau mondial et chacune d'entre elles aurait réalisé une partie du travail d'enquête et d'investigation. Les documents montrent que des milliers de sociétés écrans ont été créées par un cabinet d'avocats panaméen. Ces sociétés servent généralement à constituer des sources d'opacité permettant de dissimuler des circuits de capitaux financiers internationaux d'argent sale, mais aussi d'évasion fiscale.
Vu le travail de fond que tu viens de résumer, il n'y aurait donc aucun doute sur la véracité des informations dévoilées.
Tout à fait. A priori, il n'y a aucun doute sur ce point.
Quel serait donc le total des capitaux placés concernés par cette affaire ?
Eh bien ça, l'enquête Panama Papers ne permet pas de le savoir. On sait que des milliers de sociétés écrans ont dissimulé des sommes colossales d'argent. Pour une seule société, il est déjà difficile d'estimer les sommes. Chacune d'elles a une utilisation différente en fonction du fait que elle souhaite échapper au fisc ou elle souhaite éviter de perdre de l'argent au moment d'un divorce, etc. Donc c'est assez difficile à dire. Les estimations générales dont on dispose au-delà de Panama Papers sont de l'ordre de 20 000 à 25 000 milliards de dollars qui concernent uniquement les particuliers.
Justement, quelle est la différence entre un paradis fiscal à part entière et un pays qui attire les évadés fiscaux par sa fiscalité avantageuse ?
Il faut dire qu'il n'y a pas vraiment de différence. En fait, nous savons que la fraude et l'évasion fiscale sont des activités de proximité. Par exemple, si tu es française et que tu veux échapper au fisc, on te retrouvera généralement en Suisse ou au Luxembourg si tu es un particulier, au Luxembourg, aux Pays-Bas ou en Irlande si tu es une société. Ensuite, les intermédiaires auxquels tu t'adresses, qui sont souvent des banques, eux-mêmes vont te proposer des produits d'opacité financière. Et eux, elles, ces banques vont faire appel aux paradis fiscaux, c'est-à-dire comme la création d'une société écran. Dans Panama Papers, on découvre que le cabinet Mossack Fonseca, qui est situé au Panama, a créé ses services dans 21 paradis fiscaux et utilise plus de 14 000 intermédiaires. C'est donc une industrie mondiale de la dissimulation et de l'opacité financière qui est dévoilée.
Donc finalement, l'argent placé ne bénéficie pas qu'aux particuliers et aux entreprises qui le dissimulent.
Effectivement, il bénéficie un peu à tout le monde, à tous ceux qui participent à cette dissimulation. Lorsque l'on dit que l'argent est en Suisse, en Panama ou ailleurs, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. L'argent est uniquement enregistré juridiquement dans ces pays. Leurs autorités fiscales vont pouvoir le contrôler et le taxer. Mais l'argent est concrètement utilisé sur les marchés financiers internationaux. Il peut servir à acheter des dettes publiques, des dettes de particuliers, des dettes d'entreprises, à financer des entreprises et n'importe quel business au niveau international.
D'où le soupçon qui pèse souvent sur l'origine de l'argent placé dans les paradis fiscaux.
Ah oui, il peut effectivement y avoir de l'argent sale qui vient d'activités illégales, et il y en a avec certitude. Mais je pense que ce n'est pas la partie la plus importante des flux financiers qui circulent dans les paradis fiscaux. La majorité de cet argent a deux autres provenances. bon, l'évasion fiscale, hein, par le biais des revenus, de salaires, de stock options, et l'argent des fonds spéculatifs. Et ce dernier point concerne les activités des établissements de la finance internationale qui veulent prendre des risques très importants tout en voulant restant cachés.
Quel est l'intérêt concret qu'apportent Panama Papers au gouvernement dans leur lutte contre les paradis fiscaux ?
D'abord, cela prouve surtout que les gouvernements doivent mettre davantage de moyens pour la traque de ces fraudeurs fiscaux et de l'argent sale. Panama Papers, encore une fois, confirme que cela se produit d'une manière industrielle et au niveau mondial. Je ne sais pas jusqu'où les informations de l'ICIJ vont aller et leur nature. Il ne faut pas oublier que c'est un travail journalistique. Et ces journalistes n'ont pas à être des supplétifs de la police ou de la justice. C'est un travail d'information. Reste maintenant aux administrations fiscales, qui peuvent avoir des doutes sur certains noms qui sortent de Panama Papers, de mener leurs propres enquêtes.
Et dans ce sens, est-ce que les gouvernements ont les moyens juridiques de faire rapatrier cet argent ?
Le plus dur pour les gouvernements dans la traque de l'évasion fiscale, c'est de la localiser et d'avoir la liste des évadés fiscaux à cause du système financier mondialisé. Mais maintenant, ils savent où l'argent est caché. On peut tout de suite cibler les personnes concernées. Une fois que les enquêtes de justice confirment l'existence de procédés illégaux, on peut forcer à ce moment-là le rapatriement des capitaux.
C'est-à-dire que les pays considérés comme des paradis fiscaux vont collaborer facilement ?
En réalité, cela concerne surtout les intermédiaires, les banques et les particuliers évadés eux-mêmes. Par exemple, la France a ouvert un guichet pour dire aux Français « Attention, à partir de 2017-2018, la quasi-totalité des paradis fiscaux vont accepter la procédure d'échange automatique d'informations fiscales. » C'est-à-dire que le fisc français sera informé qu'une telle personne a un compte, qu'elle achète de tels produits financiers dans l'ensemble des pays du monde. Donc, si la personne le fait pour des faits de dissimulation, à partir du moment où le fisc de son pays sera au courant, cela n'a aucun intérêt pour elle. En plus, elle sera poursuivie en justice pour fraude fiscale. Donc, le fisc français propose à ceux qui sont concernés de le déclarer d'eux-mêmes. Ils pourront régler leur situation vis-à-vis des impôts sans passer par un procès. Ils paieront leurs impôts à partir de l'année au début de l'évasion fiscale, en plus d'une amende et les intérêts de retard. C'est un système qui apparemment fonctionne bien puisque la France récupère désormais près de 2,5 milliards d'euros de recettes fiscales chaque année.
Et en ce qui concerne la législation internationale, que fait-on pour lutter contre les paradis fiscaux ?
Eh bien, le G20 a demandé à l'OCDE de passer rapidement à la généralisation de l'échange automatique d'informations dont nous venons de parler. L'OCDE a de son côté proposé en octobre 2015 un projet de 15 points pour empêcher ou en tout cas réduire le recours des multinationales aux paradis fiscaux en leur imposant beaucoup de contraintes. L'un de ces points essentiels, c'est que les multinationales qui réalisent 750 millions d'euros de chiffre d'affaires par an seront obligées de faire des rapports d'activité détaillés pour leurs administrations fiscales. Ainsi, on devrait connaître le montant du chiffre d'affaires pays par pays où une multinationale quelconque est implantée, le nombre d'employés, les profits réalisés, les impôts payés, etc. Pour l'instant, il est prévu que ce genre d'informations soit disponible uniquement pour les administrations fiscales. Mais il y a un combat qui est mené par des ONG pour que ces informations soient plutôt rendues publiques, c'est-à-dire qu'elles soient à la disposition notamment des journalistes, des citoyens, des salariés, des actionnaires et des ONG qui le souhaitent.
Et en attendant, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que d'autres scandales éclatent après celui du Luxembourg et maintenant celui du Panama ?
Je suppose, je suis sûr que dans les quelques années à venir, il y aura encore beaucoup plus d'affaires, car la pratique des lanceurs d'alerte se démocratise. À cause de la crise, on voit de plus en plus de pays en difficulté financière, ce qui accélère la pauvreté, la montée des inégalités. Or, les paradis fiscaux rendent service uniquement à une petite élite globalisée et renforcent davantage ces inégalités. Par conséquent, il y a de plus en plus de gens qui veulent le dénoncer, que ce soit même dans les banques, les cabinets d'avocats, les sociétés de comptabilité, etc. Ils ont décidé, pour cela en tout cas, de ne plus cautionner ce système et ils sont donc amenés à donner les informations auxquelles ils ont accès.
Très bien. Donc avant d'attaquer la deuxième partie de l'émission, où on évoquera les lanceurs d'alerte et la directive votée le mois dernier sur le secret des affaires, on va s'écouter un morceau de Jacques Dutronc qui s'appelle On nous cache tout, on nous dit rien. Et tu le sais peut-être pas, mais c'était la chanson fétiche de Radio Béton, l'ancêtre de Radio Galère.
On ne dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril? On nous cache tout, on ne nous dit rien. Socrate a-t-il bu sa cibu? L'aventure était au coin de la rue. On nous cache tout, on ne nous dit rien. La vérité sur Dagobert. Elle était son manager. Oh, on nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Vérité sur la falice, quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque, a-t-il été déclaré au fisc? On nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Savoir pourquoi Napoléon mettait la main dans son giron. On nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Fruitbuche, l'affaire Machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache-cache et cache-tampon. Colin Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. Informe vraiment sur rien.
Nous voilà revenus dans cette deuxième partie où on va évoquer la directive européenne votée le mois dernier sur le secret des affaires. Mais avant, Christine nous réserve une petite surprise et un morceau de choix.
Eh oui, la banque BNP Paribas, un des requins les plus anciens d'attaque, est le parrain de la finance française et européenne. Pour l'année 2015, la banque affiche une santé indécente avec un chiffre d'affaires record de 43 milliards d'euros et un bénéfice net de 6,7 milliards d'euros. C'est la banque française la mieux implantée dans les paradis fiscaux et judiciaires avec 170 filiales déclarées. Dans le cadre de la campagne Attaque pour la fermeture de toutes les filiales BNP aux îles Caïmans, nous avons mené le 13 avril dernier une action devant une des agences de la BNP dont voici un petit extrait.
Venez, approchez messieurs dames, venez danser avec les caïmans. Je plaisante. La BNP vous propose des placements à bon rapport et surtout sans aucun impôt. Elle peut vous proposer des montages très performants pour vous assurer la plus grande discrétion sur les montants placés. Ouais. Naturellement, le service a un prix. Hey, il faut bien que la banque y gagne, hein. Créer des sociétés anonymes, des filiales financières, multiplier les intermédiaires, mettre en place des sociétés écrans. Nous sommes experts en la matière, les meilleurs en France même. Quoique nos voisins de la Société Générale n'ont fait pas mal non plus du côté du Panama. Mais eux, ils se sont fait prendre et pas nous encore. Alors pour vous, il faut que le jeu envahie la chandelle, n'est-ce pas? Nous jouons dans la cour des grands. Mais je vous vois, compère. Vous n'êtes pas ici pour placer des broutilles, vous.
Eh non, disons que je suis dans un marché plutôt porteur, voyez-vous. Mais mon argent, j'ai besoin de cette idée opaque, surtout pour le blanchir.
Ouh ! Allez, madame, allez approcher.
Bonjour. J'ai mon oncle qui m'a légué beaucoup d'argent. C'était un homme riche, il était dans les affaires, les bonnes affaires. C'est ce qu'on peut appeler un héritage, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors, mon oncle, il n'avait pas d'enfant. Donc, je ne voudrais pas que l'État me prenne une partie de cet argent. Oh non, c'est pas que j'ai gagné cet argent à la sueur de mon front, surtout pas. D'autres s'en sont occupés et ont beaucoup travaillé pendant que tonton, il empilait les liasses. Vous comprenez? Et je n'ai pas besoin de cet argent tous les jours. Bien sûr. Alors, je voudrais le placer, le faire fructifier.
Je voudrais qu'il travaille. Je voudrais faire travailler mon argent, mais pas moi. Et ça, c'est une facilité que l'on fait aux riches seulement. Alors, autant profiter, non? Et puis, en tout cas, je ne voudrais pas que cet argent soit mis même pour la moitié dans le pot commun de l'État, comme la loi m'y oblige. Certainement pas.
Alors, que me proposez-vous comme placement?
Voilà, madame, voilà, je prends tout. Rassurez-vous, nous allons mettre en place suffisamment d'opérations bancaires pour que ce soit parfaitement opaque. Tout sera placé dans un paradis fiscal, et puis c'est un lieu où l'impôt est quasiment inexistant, et l'État français n'en saura rien, tout sera parfaitement mélangé ensuite. D'ailleurs, rassurez-vous, l'État français ne cherche pas trop à savoir. Mais est-ce que je pourrais retrouver cet argent quand j'en aurai besoin? Pour m'acheter une île? Pour m'offrir une demeure à Monaco? Mais vous, qu'en faites-vous de cet argent?
Oh, écoutez, vous retrouverez votre argent, enfin le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Peut-être sera-ce celui de monsieur, c'est certain. Je vous le garantis, désormais un transfert d'argent, c'est juste une opération informatique, rien de plus. L'argent n'a pas d'odeur, n'est-ce pas? Alors que l'argent vienne du terrorisme, du trafic d'êtres humains, du trafic de drogue, il peut venir du trafic d'armes, tout sera bien mélangé, anonymé, super blanchi. Chacun y trouvera son avantage.
Elle commence à nous gonfler, la boule d'argent. Parce que moi, madame, je travaille, contrairement à vous. Alors certes, je travaille dans la drogue, dans le trafic d'armes, dans la prostitution, mais moi, je travaille, madame. Alors, l'avantage de l'argent, il a une odeur, il en a qu'une seule. Qu'il soit un peu sale, un peu propre. La petite madame ici, de la TNP, elle va nous mélanger tout ça, ça va sentir tout pareil, et puis vous allez retrouver votre argent tout pareil. Alors faut pas vous inquiéter, hein. Et puis moi c'est vrai que ça me permet, bon, de loger un petit peu d'argent dans l'économie plus classique, quoi, des secteurs certes un petit peu moins porteurs, mais un peu mieux vu.
Aucun souci, nous mélangeons tout, je prends tout.
Qu'est-ce qu'il faut encore? Non mais nous et nous là, qu'est-ce qu'il faut là? Non!
On en veut du fric, on en veut! Partagez-le! Bande de mafieux! Banque comprise! Bon allez, ça suffit ce trafic sale, nous recyclage!
Vous en voulez une miette?
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ces billets qui volent de main en main entre la banque, les multinationales, les riches héritières, les mafieux qui recyclent de l'argent de la prostitution, de la vente d'alcool et de drogue.
Alors l'avocat là.
Et lui, qui fait cet avocat d'affaires là?
Cher monsieur, vous au moins, je sais que tout le monde peut prendre votre argent.
Ah oui, un homme honnête.
Un homme honnête.
Ah, mais moi, je suis un homme totalement honnête. Je travaille, je paye quelques impôts, mais en même temps, je n'ai pas trop envie d'en payer plus. Donc, face à ça, j'ai une amie, elle s'appelle ma banquière. Ma banquière, je l'appelle à toute heure du jour, de la nuit. Je lui donne des sous et elle le garde précieusement. Et puis quand j'en ai besoin, j'en ai deux fois plus. C'est génial. C'est ma banquière, je l'aime énormément.
Oh ben vous avez tous compris, vous avez vu ce qui se passe. Vous avez vu comment ils font entre eux, en catimini. Pendant que nous, on entend les discours de monsieur le ministre du budget et des finances. Eh bien voilà comment ça fonctionne. Entre l'État protégé par l'État et les multinationales, les mafieux et les riches, ces rivières. Bon.
L'évasion, messieurs, dames, l'évasion.
Rencontrons-nous pour dénoncer cette mafia banque et grande multinationale.
Viens, viens, je vais te remplir un petit peu les poches et tu arrêtes de parler. Viens, 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 viens.
Arrêtons, on en a tous conscience, regroupons-nous. Non, arrêtons ce scandaleux privilège qui est fait à ces quelques riches qui coûtent à la nation 60 à 80 milliards par an.
Bonjour à tous. Bonjour madame la banquière.
Oui.
Je viens de m'évader de prison.
Oui.
Et je voudrais faire une évasion fiscale, mais j'ai pas un rond, alors qu'est-ce que je dois faire?
Ah, alors si vous n'avez pas de ronds, vous ne m'intéressez pas.
Comment
moi,
ça?
Je m'intéresse qu'aux gens qui ont des ronds.
Je vois bien l'alliance entre la banque et les mafieux. Moi, ce que je voudrais dire, enfin, c'est que nous, citoyens, qu'on arrête, messieurs les banquiers, vous êtes foutus. Madame la banquière, c'est fini votre monopole du fric.
Nous voilà de retour au studio et Hervé, tu vas nous parler de l'adoption par le Parlement européen le jeudi 14 avril dernier de la directive sur le secret des affaires.
Oui, cette directive censée protéger les entreprises contre l'espionnage industriel a été élaborée en toute opacité par la Commission européenne à la demande et avec l'aide de quelques multinationales françaises et américaines. Elle introduit une nouvelle définition, le secret des affaires, au contour tellement large que toute information interne à l'entreprise peut potentiellement en faire partie. Et surtout, la directive permet aux entreprises de poursuivre tous ceux, journalistes, syndicalistes, lanceurs d'alerte ou salariés, utilisant leurs informations acquises sur leur lieu de travail qui révéleraient un secret d'affaires.
Au lendemain de l'affaire Panama Papers et après le procès d'Antoine Deltour et d'Edouard Perrin au Luxembourg, qui dans le cadre de l'affaire LuxLeaks avait dévoilé au grand jour les pratiques fiscales de firmes comme Apple, IKEA, Pepsi, pour économiser des milliards de dollars d'impôts, c'est un texte protégeant les lanceurs d'alerte et imposant la transparence aux multinationales que le Parlement européen aurait dû adopter.
Et pourtant, plus de 270 000 citoyens avaient appelé les eurodéputés à rejeter cette directive. En 270 000 citoyens, en deux semaines, dans une pétition, mais il y avait aussi une coalition européenne de 54 ONG et organisations syndicales. Manifestement, les eurodéputés n'ont pas bien compris les enjeux et les dangers du texte qui leur était soumis. Ce vote est intervenu au pas de charge le lendemain d'un débat expédié en moins d'une heure dans un hémicycle quasi vide. Et il interroge une fois de plus sur le fonctionnement démocratique de l'Europe et la capacité de ses institutions à défendre l'intérêt général.
Et à propos de vote, tu peux nous dire qui a voté quoi ?
C'est même un plaisir parce que, en gros, les votes étaient les suivants. Bon, ce qu'on appelle la gauche, le GUE, a voté contre cette directive. Les Verts ont voté contre, mais les socialistes ont voté pour. Et oui. Et les conservateurs également, le groupe des conservateurs et réformistes a également voté pour, et le groupe Europe des Nations et des Libertés, dont fait partie le Front National, a également voté pour, celui qui a la tête haute et les mains propres, quoi. Et le plus terrible là-dedans étant le double langage des socialistes français qui affichent dans les médias un soutien aux lanceurs d'alerte et poussent des cris d'orfraie contre les paradis fiscaux, mais quand il s'agit de voter une directive de ce genre, vote comme un seul homme, en général c'est des hommes cette directive, et tant d'autres.
Alors si je comprends bien, avec cette directive, le Parlement européen crée un nouveau droit à l'opacité pour les multinationales et fragilise encore un peu plus les contre-pouvoirs. C'est un triste jour pour ce que vous pouvez encore espérer de la démocratie européenne. Il y a urgence à ce que les citoyens européens reprennent le pouvoir qui leur est confisqué.
Bah, tout à fait bien résumé l'esprit de cette directive. En gros, la réponse de l'Europe aux Panama Papers, c'est un nouveau droit à l'opacité pour les multinationales. Et c'est bien la démonstration que si de véritables mesures de transparence existaient et que les citoyens avaient accès aux informations clés sur l'activité des banques et des entreprises et sur le montant de leurs impôts payés, les LuxLeaks, les Panama Papers et autres scandales d'évasion fiscale pourraient être évités et les honteux procès intentés aux lanceurs d'alerte n'auraient pas lieu.
Bon, ben en attendant, on va s'écouter une chanson du vieux Léo qui s'appelle « L'oppression ». L'oppression, c'est une chanson symphonique créée sur scène en 1972 et publiée en 1973 dans l'album « Il n'y a plus rien ».
Ses mains bonnes à tout, même à tenir des armes, dans ces rues que les hommes ont tracées pour ton bien, ces rivages perdus vers lesquels tu t'acharnes, où tu veux aborder, et pour t'en empêcher, les mains de l'oppression. Regarde-la gémir sur la gueule des gens avec leurs yeux fardés d'horaires et de rêves. Regarde-la se taire aux gorges du printemps avec les mains trahies par la faim qui se lève. Ses yeux qui te regardent, et la nuit et le jour, et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. Regarde-la pointer son sourire indécent sur la censure apprise et qui va à la messe. Regarde-la jouir dans ce jouet d'enfant et qui tue des fantômes en perdant ta jeunesse. Ces lois qui t'embarrassent au point de les nier dans les couloirs glacés de la nuit conseillère, et l'amour qui se lève à l'université et qui t'envahira lorsque tu casseras les lois de l'oppression. Regarde la flâner dans l'œil de tes copains sous le couvert joyeux de soleil fraternel. Regarde-la glisser peu à peu dans leurs mains qui formeront des points dès qu'ils auront atteint l'âge de l'oppression. Ses yeux qui te regardent, et la nuit et le jour, et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression.
On arrive à la dernière partie de l'émission avec l'agenda d'Attaque Marseille en mai-juin. Alors, qu'est-ce que nous a concocté Attaque Marseille d'ici la prochaine émission ?
Eh bien, il y aura le mardi 24 mai à 18h30, dans notre beau local du 29 boulevard Longchamp, une grande réunion débat sur la centrale biomasse de Gardanne, centrale qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, sur notamment les désastres annoncés pour l'environnement et la population qui vit autour de cette centrale, pour l'énorme gaspillage d'argent public, mais surtout, il y aura un plan B et des propositions alternatives qui seront faites en matière d'emploi.
Vraiment inquiétant, en effet. Il faut donc absolument participer à cette réunion publique du 24 mai. Je me souviens d'ailleurs qu'on avait fait il y a quelques mois une émission spéciale de la gueule ouverte sur cette centrale biomasse de Gardanne. Alors, de quoi parlera-t-on ?
Alors, cette réunion publique sera animée par le collectif de vigilance gaz de Gardanne et on évoquera les questions suivantes. Bon, d'abord, une centrale biomasse, c'est quoi ? Comment ça marche ? Pourquoi la centrale biomasse de Gardanne est-elle une aberration à la fois en matière d'environnement, d'utilisation des ressources, d'utilisation d'argent public, etc. Parce qu'une centrale biomasse, c'est pas forcément une aberration. Mais celle-là, elle l'est particulièrement et elle cumule tout ce qu'il faudrait pas faire en la matière. Du point de vue démocratique, autre question, la population a-t-elle été associée au processus de décision et consultée sur les enjeux ? Toujours en questionnement, quelles sont les forces, les positions en présence, celles des élus, des partis, des syndicats, des associations ? Et le point le plus important, le plus intéressant, c'est quels sont les emplois en jeu et est-ce qu'il y a une alternative à cette centrale biomasse, une alternative en matière d'emploi ?
Bon, donc je rappelle, cette réunion publique sur la centrale biomasse de Gardanne et les alternatives en matière d'emploi aura lieu le jeudi 24 mai à 18h30 dans le local d'attaque du 29 boulevard Longchamp et sera animée entre autres par le collectif de vigilance gaz de Gardanne. Et l'apéro mensuel d'attaque alors, il aura lieu ?
Mais bien sûr qu'il aura lieu. Il aura lieu le mercredi 8 juin à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Toujours au bar du Vilain Petit Canard, qui se trouve juste à côté du cinéma Les Variétés.
Et tu peux nous en dire un peu plus sur cet apéro ?
Alors, bien volontiers. C'est quoi l'apéro d'attaque du Vilain Petit Canard ? C'est un moment sans prétention pour mieux se connaître, pour parler d'attaque, pour parler de ses campagnes, ce qu'on pourrait faire ensemble dans les mois à venir. Bref, c'est juste un moment agréable à partager. Rendez-vous le 8 juin à 18h30 au Vilain Petit Canard pour trinquer à la santé du vieux monde.
Là, je pense qu'on a fait le tour. Alors, on offre aux auditeurs de Galère une chanson qui commence à dater parce qu'elle est de 99. On n'était pas encore nés et Attaque n'avait qu'un an. C'est chanté par le 113, qui est un groupe de rap français formé en 94 et originaire de Vitry-sur-Seine, en banlieue sud de Paris. On écoute une chanson extraite de leur album « Les Princes de la Ville » et qui s'appelle « Tonton du Bèble ». Allez, chauffe Sidi !
Hey, tonton ! Les cabas sont trop lourds !
Allez, monte dans la voiture, j'ai
regarde, Bill, elle s'en va !
Monte, Bill, elle mou... Hey, Atmen ! Allez, monte ! Allez, on y va ! Hey. Hey mais Karim, tonton du bled, pour tous les Miss Mourt, le bledi, 504 break chargé, allez, montez les neveux, juste un instant que je mette sur le toit, la grosse malle bleue, nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol, on est les derniers locataires qui décollent, le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher, Bilal, va pisser, le temps que je fasse mon petit marché, direction le port, toujours le pied sur le plancher, jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Gido? À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer Fedar, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé tout à ti. Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la plage à Boulemat avec mon zinc et son derbouka. Dans la main, un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de Zizitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Zerwania. On parle de tout et de rien, des Nike Air au visa, de la traversée du désert au couscous de Yema. Et mon cousin me dit,
Karim, kiff les êtes là.
Il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec 2-3 blédards, on tape la discussion. Mahmoud peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un d'eux me dit,
moi je t'ai pas vu cette télévision.
Et l'autre me demande,
ça hâte à l'art Michael Jackson.
Il parle trop vite et en argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinars, connard. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et du latte. Pour d'autres, la chicha. J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le tiers-monde. Et si j'avais assez d'oseille, je ramènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Des 10 morceaux ont disparu aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité,
Arbeya.
Content de revoir mes potos
et
et ma chebba. Pendant deux semaines j'ai mangé que de la charba. J'irai finir mes jours là-bas, Inch'Allah. Je vais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. S'il te plaît, vas-y, laisse-moi ramener mon scooter. Bon, dans ce cas-là, je ramène mon 3 quarts alors. Bon, alors je prends tous mes CD, toutes mes cassettes. Bon, je prends rien alors. Bon, je me fais la boule au moins avant de partir. Je ramène la PlayStation. Bon, la télé du salon au moins. Tu crois que je vais aller là-bas pour me marier ou quoi?
En beauté, voici notre traditionnelle devinette. Alors Hervé, qui a pu dire, en parlant des lanceurs d'alerte, je cite, « Il faut protéger les lanceurs d'alerte, ils font un travail utile et prennent des risques. »
Oh là là, sûrement pas le directeur de la Société Générale pris la main dans le sac avec ses 979 sociétés offshore des Panama Papers. Comme à chaque fois, dixit le ministre Michel Sapin, la Société Générale s'engage à la transparence et jure d'arrêter toute activité au Panama. Et une nouvelle fois, il a fallu un lanceur d'alerte pour prouver ce que chacun sait et que l'État laisse faire, les banques françaises organisent industriellement l'évasion fiscale. Combien de scandales encore avant que François Hollande ne tienne sa promesse numéro 07.2, alors je vais vous dire ce qu'était cette promesse, je cite, « interdire aux banques d'exercer dans les paradis fiscaux ». Et puisque le gouvernement n'agit qu'en parole, nous voulons poser des actes. Société Générale possède 103 agences de banques privées en France. Ces agences dédiées à la gestion de patrimoine d'une clientèle d'entrepreneurs et de particuliers fortunés sont un des points de départ de l'évasion fiscale organisée par la banque. Donc attaque, appel à occuper, à bloquer les 103 agences de banques privées de Société Générale de France au grand jour, à visage découvert, dans l'esprit de l'action non violente et de la désobéissance civile, en respectant les personnes, tout en affichant notre détermination à faire changer cette situation d'injustice. Donc, je ne sais pas qui a dit la jolie phrase que tu proposes.
Mais je te crois pas. Tout le monde le sait. Tu dis que tu sais pas et puis tu l'as cité. Alors, je ne vais pas te laisser languir plus longtemps. Il s'agit de notre président, François Hollande, lors d'un déplacement le 4 avril dernier à Boulogne-Billancourt. Mais cela prête un peu à sourire quand on se rappelle que François Hollande a refusé la demande de droit d'asile à la France adressée par Julian Assange, responsable de Wikileaks, qui a pourtant sorti un bon paquet de documents. Et que dire d'Edward Snowden, désormais directeur de la fondation Freedom of the Press, qui vit toujours en Russie, où il s'est réfugié depuis l'été 2013. Aux États-Unis, il est inculpé d'espionnage et de vol de documents appartenant à l'État. La France n'a jamais levé le petit doigt pour l'accueillir, même quand des députés de tous bords avaient demandé que l'asile lui soit accordé en 2014, tout comme les près de 170 000 signataires d'une pétition. Alors, les déclarations tonitruantes de celui qui nous disait « Mon ennemi, c'est la finance !»
Eh bien, raison de plus, alors, pour se lancer sans attendre dans cette campagne lancée par attaque d'occupation des sociétés générales jusqu'à ce que les pouvoirs publics prennent enfin les mesures nécessaires pour en finir avec l'évasion fiscale. Donc, en attendant, cette émission sera rediffusée le mardi 17 mai à 14h. Notre prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 9 juin à 15h. D'ici là, ne lâchez rien. Au revoir Christine et merci. Merci Sidi également. Donc à bientôt.
À bientôt.
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.